j'appartiens à une génération qu'on a, que souvent les gens qui font des travaux universitaires rattachent à la poésie, mais comme le mot poésie ne convient pas tellement, ils utilisent d'autres concepts, comme par exemple l'idée de post-poésie, qui ne veut pas dire grand-chose. Post-poésie, ce serait peut-être l'idée d'une poésie qui appartiendra à l'époque post-moderne, mais comme on ne sait pas trop non plus comment définir, à part dans certains cas très précis, ce que c'est que le post-modernisme, surtout en littérature, et surtout pour la poésie, on a du mal aussi à dire ce que serait que la post-poésie. Alors, moi je dirais en fait une chose très bête, un peu schématique, mais très simple. Je dirais en fait que j'appartiendrai à une génération qui considère la littérature comme une forme d'écriture instrumentaliste. Je veux dire par là que, voyez, en schématisant un peu, il y aurait deux manières de concevoir la littérature ou l'écriture. Il y aurait une manière qui serait issue du romantisme, qui considérerait l'écriture comme une nécessité, en utilisant tout un tas de concepts, comme par exemple l'idée de vocation, par exemple. On trouve ça dans les écrits de Rimbaud, mais dans toutes les conceptions sacralisantes de l'écriture. L'idée qu'on écrit de façon instrumentale, ça veut dire qu'on va valoriser toutes les notions qui sont déconnectées de toute notion de nécessité, et en particulier la notion de contingence. Par exemple, on ne considère pas que les écrivains sont nécessairement écrivains par vocation ou par ce genre d'idée-là. Ils sont écrivains pour des raisons contingentes. Même chose, la forme des écrits et non pas nécessité par exemple une expression personnelle qui déterminerait leur structure ou leur forme ou leur mode d'apparence ou je dirais l'espace dans lequel ils circulent, mais ce serait plutôt un certain nombre de circonstances, et en particulier je dirais en ce qui me concerne des circonstances politiques. C'est essentiellement ça qui détermine les espaces où circulent mes textes, et je dirais les processus par lesquels ils sont fabriqués. Voilà. Essentiellement, ce que des gens comme moi cherchent à produire, c'est pas du tout des textes par lesquels ils s'auto-constituent. C'est pas des textes qui sont tournés vers le sujet qui les produit, comme les confessions, par exemple, essentiellement. Sur cette modalité-là, je prends toujours des sortes de paradigmes, mais ce seraient des textes qui seraient pensés comme des objets techniques, destinés à être secourables. Un peu comme quand on invente un nouvel objet qui n'est pas forcément déterminé par une utilité lié à un besoin qu'on voudrait créer, mais je dirais que ce seraient des objets qui seraient liés ou dont la production serait liée à des angoisses qu'on pourrait identifier dans le public. Ce qu'on pourrait appeler aussi plus simplement des problèmes publics qui se manifesteraient à travers un certain nombre de symptômes. Alors pour dire aussi, pour revenir à des choses très très simples, moi pour écrire ce livre, a été écrit entre 2010 et 2012. J'avais en perspective, il y avait une chose qui me turlupinait, c'est que je ne voulais pas que Sarkozy soit réélu. Donc mon problème pour écrire ce livre, ce qui a motivé toute son écriture et déclenché toute la stratégie de sa mise en circulation, c'était de faire obstacle à sa réélection. C'était je dirais la perspective générale. Cette circonstance des élections de 2012, c'était ce que je visais comme espace dans lequel je voulais voir circuler ce livre. Et en fait, ce que je voulais, tout simplement, c'est transformer un peu les modes de discussion que les gens pouvaient avoir sur l'homme Sarkozy. Pourquoi on pouvait voter contre lui? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que c'est que le sarkozisme? Et plus globalement, qu'est-ce que c'est que la droite d'aujourd'hui? À quoi elle ressemble? Comment elle parle? Quelle est son idéologie, plus spécifiquement? Pour moi, la littérature, c'est quelque chose qui permet de produire des outils d'analyse idéologique plus fins, à mon avis, que ceux dont on dispose grâce aux institutions de sondage, par exemple. Alors voilà, ça c'était, je dirais, le cadre principal. Essayer d'intervenir pour faire obstacle à la réélection possible de Sarkozy. Pour moi, vous voyez, l'idée qu'un poète puisse ne pas être concerné par des sujets comme ça, ce sont des choses qui me révoltent un peu. L'idée, par exemple, que la poésie d'aujourd'hui, une certaine quantité de poètes d'aujourd'hui considère que le travail de la poésie, c'est un travail tourné sur soi, et ce serait pensable un petit peu sur le régime, je dirais, sur le régime de l'anorexie, comme une sorte de manière de produire quelque chose de monstrueux, complètement déconnecté du monde en le refusant. Pour moi, c'est des choses qui me révolte un peu. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui doit consciemment intervenir, en fait, avec les moyens dont il dispose et en développant des stratégies. Je ne pense pas du tout que l'écriture soit quelque chose qui relève de du compulsif, mais qui relève vraiment de la stratégie, comme dans un jeu d'échecs. Alors voilà le cadre de base. C'était ça. Après, il fallait trouver un moyen de le faire de manière pas trop stupide. Enfin, je veux dire, ce que je voulais faire, c'est évidemment pas écrire une parodie de Sarkozy ou raconter la vie de Sarkozy de manière à le représenter de façon ridicule. C'est pas comme ça que je voulais. Je voulais pas faire de la littérature engagée en disant Sarkozy c'est un con, ne venez pas pour lui. C'est pas ça qui m'intéressait. Il me fallait trouver un biais qui permet de saisir en quelque sorte plus de choses. Je dirais toute la manière dont on en parle. Et en réfléchissant, quand j'ai commencé à travailler en 2010, je me suis souvenu que Sarkozy, il n'a pas été construit par hasard, il a été construit à partir d'un événement, enfin à mon avis, c'était mon avis, il y avait un événement qui, à mon avis, en fait, a fait démarrer Sarkozy et le sarkozisme. Et cet événement, il m'avait traumatisé, j'étais assez jeune à l'époque, je pense qu'il a traumatisé plusieurs autres personnes, c'était l'affaire HB. C'est-à-dire HB alias Human Bomb, c'est un homme qui, dont le vrai nom était Eric Schmidt, qui était originaire d'un petit village dans le Haut Var, excusez-moi, à côté de Béziers, dans l'Hérault, qui s'appelait Cers, et qui, au départ, était ingénieur en informatique, travaillait pour une succursale IBM, puis en fait, sa boîte s'est effondrée, il s'est retrouvé dans la nature, il est rentré chez ses parents, et là, il est entré dans une phase de régression qui a duré plusieurs mois. Il s'est enfermé chez lui, il a commencé à être un petit peu triste. Enfin, il y a eu un enchaînement d'événements qui ont fait qu'au bout d'un moment, il a craqué, enfin, c'est souvent comme ça qu'on le décrit, et il a décidé d'aller prendre en otage des élèves d'une classe de maternelle à Neuilly-sur-Seine. C'est-à-dire, en fait, la ville dont Sarkozy était le maire à l'époque. C'était en 1993. Il est resté un peu moins de 3 jours, enfin 48 heures et quelques, enfermé avec les gamins, en les menaçant de faire exploser la classe avec des bâtons de dynamite qu'il portait sur lui. Il avait aussi un pistolet d'alarme, grâce auquel il avait pu faire illusion, entrer, menacer la maîtresse, la directrice, etc. Alors, je rappelle rapidement les événements. Hein. Au bout de 2 jours, un peu plus de 2 jours, l'école avait été cernée par le RAID, c'est les forces de police d'intervention, qui était arrivé donc surarmé pour neutraliser cet homme qui n'était pas du tout en fait très habitué au maniement des armes, à l'inverse de ce qu'on a pu dire. Puis il s'est endormi, ou il a été aidé à être endormi en mettant probablement des produits soporifiques dans son café, et puis on l'a abattu d'une balle dans la tête, alors même qu'il avait commencé à laisser partir des gamins. Il restait 6 petites filles dans la salle. Lui, il a été abattu d'une balle dans la tête, et puis bon, voilà, tout le monde est parti. Et c'est cet événement-là qui a été extrêmement médiatisé, parce que les pompiers de Paris filmaient Sarkozy en train de négocier. Il a négocié pendant quelques heures avec ce preneur d'otages. Les pompiers filmaient, donc on voyait Sarkozy dans une sorte de posture un peu épique, d'homme capable de finalement de prendre des choses en main, de maîtriser un forcené, de faire d'habiles négociations. Bon, en réalité, Sarkozy n'a pas été si habile que ça, parce qu'assez rapidement, quelqu'un d'autre a pris la suite des négociations. L'homme HB, donc Eric Schmidt alias HB, n'a plus voulu négocier avec Sarkozy. Ça a été un magistrat qui a pris la suite des négociations. Alors, quand j'ai commencé à lire les choses, tout ce qui avait été publié sur la question, il y a eu énormément de choses qui ont été écrites depuis 1993, et surtout, cet événement avait été utilisé très fortement par les gens de droite pour pouvoir construire l'image de Sarkozy. Donc, ça avait été repris par les télévisions, on en avait fait des films. Des écrivains avaient aussi écrit des sortes de contre-expertise, si on peut dire, ou de contre-image concernant HB, surtout d'ailleurs dans la littérature enfantine, enfin pour enfants, ce qu'on appelle littérature jeunesse. Bon, mais moi je m'étais rendu compte d'un détail qui apparaissait dans un livre seulement,
qui était que cet homme, HB, qui signait donc ses textes HB, avait envoyé un certain nombre de lettres une semaine, enfin 10 jours avant sa prise d'otage et avant de faire exploser une première bombe dans un parking à Neuilly-sur-Seine, le parking de l'avenue du Roule. Il avait envoyé un certain nombre de lettres, on ne sait en fait jamais pas combien, à des gens qui s'appelaient Berthier, avec un H, d'où le titre de mon livre, et qui habitaient Paris. On ne sait pas combien, parce qu'en fait, je me suis renseigné auprès des gens de la Poste, on ne peut pas savoir ça. Quand vous envoyez un certain nombre de lettres à des gens par la Poste, vous pouvez en envoyer 10, 20, en fait, la seule façon de savoir si c'est le nombre de lettres qui a été envoyé, bah, c'est que les gens qui l'ont reçu se manifestent. Or, de ces Berthier qui ont reçu les lettres d'HB, il n'y en a que 6 qui se sont manifestés auprès des forces de police assez longtemps après coup. Alors voilà comment j'ai procédé pour faire le livre. J'ai demandé, j'ai élaboré un questionnaire. Et on était en période électorale, donc ça commençait. J'ai élaboré un questionnaire avec 25 questions. Je vous lirai les 25 questions. Et j'ai décidé d'appeler tous les Berthier qui étaient susceptibles d'avoir reçu la lettre, c'est-à-dire les Berthier de Paris, de l'annuaire de 1993, qui était encore à Paris, donc, et de les soumettre à ce questionnaire. Le questionnaire portait sur la mémoire qu'ils pouvaient avoir de cet événement et les rapports entre cet événement et d'éventuelles questions d'ordre politique et éthique, liées à ce que pourrait être la vie politique, les hommes politiques de notre contemporanéité. Alors, il y avait environ 130 Berthier qui étaient disponibles, si on peut dire, à Paris. Je les ai tous appelés entre 18h et 20h, exactement comme les gens qui cherchent à vous vendre des plats obsèques ou du vin ou des choses comme ça, et qui font du sort de marketing par téléphone. Ça m'a pris une partie de l'hiver 2010. Pendant cette partie de l'hiver, étant donné que là, ça a commencé à chauffer, les histoires, il y avait plein d'événements qui se passaient qui étaient tout à fait perturbants, comme par exemple d'autres prises en otage dans d'autres maternelles. En particulier dans le Nord, où un jeune garçon muni de sabre était venu faire une prise d'otage, pareil, en imitant Eric Schmidt. Bon, donc tous ces événements résonnaient un petit peu en même temps que je posais mes questions à ces gens. Bref, j'ai quand même appelé donc, les 130 Berthier. Je me suis fait envoyer sur les roses par un bon nombre d'entre eux, je dirais à peu près, enfin, je crois 60% à peu près. Non, enfin... 40% m'ont complètement envoyé sur les roses, d'autres m'ont un peu répondu. Bref, je me suis retrouvé avec pas mal d'archives, au moins, enfin je ne sais plus exactement, mais plusieurs centaines centaines de réponses aux questions. Et ensuite, il a fallu écrire le livre avec ça. J'ai choisi, vous verrez quand le livre circulera, j'ai choisi une vingtaine de Berthier qui sont classés par ordre alphabétique, et j'ai décidé de faire leur portrait en fonction des réponses qu'ils proposent. Mais j'ai pas fait... Donc, ce qui s'est passé, vous verrez quand je lirai des fragments, chaque Berthier, en quelque sorte, produit sa réponse comparativement aux autres. Ce qui fait que les réponses, finalement, me servent à indexer des proportions, des pourcentages de réponses. Par exemple, le début du texte démarre avec ce que seul le Berthier en question, par exemple, prenant le premier qui s'appelle Alain, seul Alain est capable de dire. Et plus on avance dans le texte, plus le texte est constitué à partir de ce que les autres Berthier sont capables de dire sur les mêmes thèmes que les thèmes qu'Alain a évoqués. Jusqu'à la fin, qui est donc le dernier thème qu'Alain évoque dans la discussion téléphonique, et qui est ce que pratiquement tous les Berthier ont dit, au moins à plus de 80%. Donc il y a une sorte d'ordre qu'on pourrait qualifier de statistique de la constitution syntaxique de l'écriture. Vous verrez ça quand je le lirai. Ça transparaît. Il y a une manière de constituer la grammaire du texte en la structurant par rapport à la statistique, par rapport au sujet de ce qu'ils peuvent dire. Voilà. Donc voilà, j'ai choisi ça et le livre est sorti au mois de mars de l'année dernière. Ça fait un an aujourd'hui, enfin un peu plus d'un an. Parce que ça, évidemment tout ça est un peu abstrait, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont fabriqués comme ça, donc évidemment ça doit vous paraître totalement bizarre. Mais je vais, déjà dans un premier temps, je vais vous lire le questionnaire que j'avais préparé pour eux, qui était un questionnaire aussi pour le coup très stratégique, parce qu'il fallait les tenir au téléphone. Et même évidemment, s'ils étaient concernés par leur nom propre et par ce qu'on pouvait en faire, il fallait quand même fabriquer un questionnaire de telle manière que ces gens-là ne vous envoient pas balader au bout de deux questions. Comme moi, je suis un écrivain, comme je vous disais, qui utilise des phénomènes de contingence, je me présente en disant que je suis écrivain, mais si vous dites ça, la plupart des Berthiers vous répondent « Ouais, mais tout le monde peut se dire écrivain, ce qui est vrai. Donc tout le monde peut m'emmerder au téléphone. » Donc j'étais obligé de rajouter que j'étais prof. Ça les rassurait. Et puis que je passais à la radio, ça les rassurait un peu plus. Donc j'utilisais, si vous voulez, des conjonctions d'institutions qui permettaient de prévaloir, enfin, comment dire, de garantir un peu le questionnaire que je leur proposais. Certains d'entre eux sont restés très longtemps au téléphone. Parmi les Berthiers, il y a des sortes de stars, en particulier à Marc Berthier, qui est un très grand designer. Il y a un autre Berthier, comment il s'appelle, le Stendhalien, là. Je l'ai eu comme prof d'ailleurs. Il y a un autre Berthier qui était prof à Paris 3, que j'avais eu quand je passais la grecque, qui faisait des cours sur Stendhal, qui était, que hop, j'ai retrouvé au téléphone. Puis il y en a deux, trois autres comme ça parmi. Il y en a même un qui est mort d'ailleurs récemment, qui était, je ne sais plus qui, Pierre. Bon, je sais, ça me reviendra en retravaillant, qui était un écrivain assez connu. Alors il y en a qui sont restés très longtemps, d'autres qui ont répondu à 3-4 questions seulement. Mais ça m'a fait de la matière et du matériau, puis j'ai créé des systèmes pour pouvoir entrecroiser tout ça pour faire les textes que je vais vous lire. Je vais vous lire simplement le questionnaire, et puis peut-être un portrait pris au hasard. Parce que c'est un peu long, chaque portrait est un peu développé. Peut-être je vais lire le portrait dans lequel je reconstitue la lettre. Grâce au souvenir qu'il me donne, j'ai réussi à reconstituer la totalité de la lettre que HB leur avait envoyée. J'ai quand même retrouvé 4 Berthiers qui avaient vraiment reçu la lettre et qui étaient capables de m'en décrire un certain nombre d'éléments. Donc je crois que c'est le portrait de Lauriane. Donc d'abord les questions. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je n'ai pas questionné que les Berthiers pour pouvoir faire des comparaisons. J'ai aussi questionné quelques-uns des acteurs principaux de l'affaire, et en particulier Sarkozy. Et Sarkozy a mis autant de temps pour répondre au questionnaire que moi pour écrire le livre. Quand il m'a répondu, en réalité, la lettre n'était pas signée par Sarkozy lui-même, mais par un de ses collaborateurs. Je vous lirai sa réponse, elle est assez rapide. Elle est dans le livre. C'était aussi une des stratégies pour faire circuler le livre que d'y inclure une lettre de Sarkozy. Je pensais que les gens seraient contents de pouvoir lire un inédit de Sarkozy. Voilà, je lis le questionnaire. Question 1. Début mai 1993, une lettre signée HB avertissant de l'imminence d'un attentat à venir avait été envoyée à certains Parisiens portant le nom de Berthier, avec un H, comme vous. L'auteur était celui qui allait devenir le preneur d'otages de la maternelle de Neuilly-sur-Seine. On sait qu'il y a eu au moins 3 Berthiers destinataires. Trois Berthiers destinataires. Avez-vous été l'un d'eux? Si oui, accepteriez-vous de me décrire cette lettre? Sinon, y a-t-il des membres de votre famille qui l'auraient reçu et que vous connaîtriez? Question numéro 2. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions concernant vos souvenirs personnels de cette prise d'otage? Sinon, est-il possible de savoir pour quelles raisons vous refusez? Question numéro 3. Je vais vous prononcer le nom réel du preneur d'otage et vous me direz franchement si cela vous dit quelque chose. Si oui, quoi et pourquoi? Sinon, pourquoi l'avez-vous oublié, à votre avis? Son pseudo, HB, à votre avis, à quoi fait-il référence? Et le nom, Human Bomb. Question 4. Si vous deviez choisir un acteur pour incarner ce preneur d'otages, qui prendriez-vous? Son meilleur ami disait qu'il ressemblait à Bernard Giraudot. Qu'en pensez-vous? Question 5. À votre avis, comment HB en est-il venu à choisir des gens qui s'appellent Berthier comme vous? Pourquoi a-t-il choisi comme destinataire d'autres Berthiers que vous? 6. Quand vous entendez « prise d'otage de la maternelle de Neuilly », quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? 7. Diriez-vous de cette prise d'otage qu'elle a constitué un événement de ces 20 dernières années, comparable à quel autre événement en importance? Lorsque les Twin Towers sont tombés en 2001, que faisiez-vous? Et lorsque HB faisait sa prise d'otage, que faisiez-vous? Question numéro 8. Et savez-vous quelle autre action ou activité a pu mener HB avant cette prise d'otage? Question numéro 9. À 500 mètres de la maternelle se trouve une maison de retraite. À votre avis, si HB avait pris en otage les vieillards qu'elle abrite, son opération aurait-elle eu le même effet? Question numéro 10. Pourquoi HB a-t-il choisi précisément cette maternelle à Neuilly-sur-Seine d'après vous? Question numéro 11. Accepteriez-vous de me donner votre avis sur une des lettres de votre choix que nous avons écrites à certaines personnalités plus ou moins liées à cette affaire afin de mener notre enquête? Au choix. Lettre au maire de Cers, le village d'où est originaire HB. Un hypnotiseur. Un élève de Lise Bonafou, la professeure de maths du lycée de Béziers qui s'est immolée par le feu. Pendant que j'écrivais, il y a eu cet événement dont vous vous souvenez peut-être. Lettre à la mère d'HB, qui est toujours vivante à Cers. À la sœur d'HB. Lettre à Nicolas Sarkozy. Lettre à Pierre Lioncan, qui est celui qui a relayé Sarkozy pour les négociations. C'était un magistrat. Lettre à Charles Pasqua. Lettre à Bruno Pomard, le tireur d'élite du RAID. Lettre à Dominique Rizet, de fait entrer l'accusé. Lettre à Catherine G., l'actuelle directrice de la maternelle. Lettre à François Bayrou. Lettre aux ex-petits otages, Diane Demorand, Fleur et Marion Bazin, Claire P., Raphaël N., Louis H. Lettre aux parents, Christine P., Pierre N., Stéphane H. Lettre à Nathalie R., l'institutrice de Besançon, dont la classe avait été prise en otage pendant que j'écrivais le livre. Lettre à Thierry Lenain, écrivain, auteur d'HB, qui est un livre de littérature jeunesse. Question numéro 12. Que signifie pour vous la somme de 100 millions de francs, environ 15 millions d'euros? Si vous en disposiez, que feriez-vous? Question numéro 13. Connaissez-vous des agents dans votre entourage qui se sont suicidés au travail ou à cause de leur travail? Question numéro 14. Pouvez-vous citer un homme politique courageux au cours de ces 20 dernières années? Pouvez-vous citer un artiste ou un écrivain courageux au cours de ces 20 dernières années? Question numéro 15. Quelles sont les trois qualités principales dont doit faire preuve un homme politique? Sont-elles valables pour un écrivain? Question numéro 16. Pensez-vous qu'un tel homme, c'est-à-dire HB, hein, puisse être considéré par une part de la population comme une sorte d'idole, un peu comme a pu l'être Jacques Mesrine dans les années 70. 17. Pouvez-vous nommer des personnalités importantes impliquées dans cette prise d'otage? 18. Pensez-vous qu'une telle expérience a pu avoir des conséquences sur la vie future des otages? 19. Connaissez-vous l'émission de télé-réalité Secret Story? Pensez-vous posséder un secret qui ferait de vous un candidat possible pour une telle émission? 20. Pensez-vous que le fait d'avoir été otage d'HB puisse constituer un bon secret pour une telle émission? Pourquoi y aller sinon? 21. Si vous aviez un message capital à faire passer au public qui remette fortement en cause le gouvernement ou des membres puissants de notre société, comment procéderiez-vous? 22. La sœur aînée d'HB affirme que lorsqu'elle a demandé à voir la dépouille de son frère, les autorités lui ont formellement déconseillé parce qu'il était défiguré par les tirs et que ce serait dur à supporter. Lorsqu'elle parviendra à le voir, elle constatera qu'il n'était absolument pas défiguré et qu'il n'y avait pas de traces de balles sur son visage. Source L'Humanité du 20 juillet 1993. Qu'en pensez-vous? 23. Imaginez qu'HB ait vraiment fait exploser sa dynamite pendant la prise d'otage. Pensez-vous que cela aurait eu un effet sur le devenir politique de la France? 24. Nous autorisez-vous à utiliser votre nom réel dans le livre que nous allons rédiger à partir de vos réponses et de celles des autres Berthiers de Paris qui nous répondront? Si oui, à quelles conditions? Sinon, auriez-vous un prénom fictif à nous proposer? 25 et dernière. Si jamais je suis invité pour présenter ce livre à la radio ou à la télévision, accepteriez-vous de m'accompagner en tant que contributeur, contributrice à son écriture? En fait, je vais vous lire la dernière. C'était une vieille dame. Puis je vous lirai peut-être la lettre d'HB après, si vous voulez. Donc la dernière dame, celle qui est la dernière dans le livre et qui était une des premières d'ailleurs à avoir répondu au questionnaire, elle s'appelait Zoé, c'est son vrai nom. Une dame, je ne sais plus, mais qui était âgée. Je crois que son âge est indiqué dans le texte. À la question numéro 25, Acceptez-vous que votre vrai prénom soit utilisé dans ce livre? Je commence par demander s'il y en a beaucoup parmi nous qui refusent. Et dans ce cas, quelles peuvent bien être leurs raisons? À notre époque, dans les années 50-60, on était libre. Cela se voyait parce qu'on se livrait plus facilement. Aujourd'hui, je trouve qu'on est libre surtout de faire carrière. On rate l'amour, l'éducation de ses enfants. On divorce à 40 ans, on est malheureux en couple. Et il y en a plein, des célibataires de 45 ans, qui sont obligés de passer par Internet pour faire des rencontres. Je considère que moi, j'ai été plus heureuse. Je ne connais pas d'autres Berthier à Paris, et dans ma famille, je suis la plus âgée. J'ai 10 petits-enfants, et c'est mon petit-fils Pablo qui a décroché d'abord vers les 18h, quand je n'étais pas encore rentré. Derrière lui, ça riait tellement qu'on ne s'entendait plus parler. Il a demandé du silence, mais les éclats ont redémarré quand il s'est mis à dire qu'HB, il voyait très bien ce que c'était, mais que les années 90 ne lui disaient pas grand-chose, vu qu'il n'a que 13 ans. C'est grâce à lui que j'ai entendu parler de Koh-Lanta et de Secret Story, la plus débile des deux à mes yeux. Seul, je ne regarde jamais TF1. Je ne me vois pas aller chercher un secret chez moi, car mon passé, je le rumine plus que j'en parle. Depuis 6 ans, je ne fais plus la conversion des euros en francs. Je me rends compte, à comparer les prix des appartements, que cela ne représente plus rien. Cependant, je trouve qu'HB aurait pu demander bien plus. Ces derniers temps, j'ai disparu de la duère téléphonique, parce que ma fille est venue vivre temporairement avec moi et elle a donc mis la ligne de téléphone à son nom. Quand on me rappelle, en février 2012, quelques jours avant l'impression de notre livre, on entend bien que ma voix, si elle reste toujours avenante, semble comme élimée. Il y a 2 mois, j'ai été attaqué dans le métro et j'ai eu 2 vertèbres cassées. Je ne dis pas que je me déplace avec difficulté, ni même que ma fille est venue ici pour m'apporter un peu d'aide et de réconfort. Entre les 2 coups de fil, mon amie, qui avait tenté de mettre fin à ses jours, a réussi à négocier son départ d'Orange. Elle tremblait à l'idée que cela se sache, et c'est pourquoi elle ne m'a pas rappelé pour livrer son témoignage. Maintenant, elle a réussi à prendre sa liberté et elle voyage. La prise d'otage de la maternelle, j'en parle comme d'une affaire, ce que je distingue d'un fait divers ou d'un événement, même si j'ai compati avec les parents. J'ajoute que Nicolas Sarkozy me donne l'impression de traiter tous les problèmes comme des affaires, avec énergie, gesticulant, essayant d'être familier avec tout le monde, avec Obama, avec Merkel. Je ne le trouve pas rassurant. Je ne vois pas particulièrement en lui un leader, mais je constate qu'il a du charisme à l'étranger. Mes qualités politiques favorites sont solide, peu attentif aux critiques, soucieux du bien général. Je fais partie des 5% d'entre nous, comme Marc, Stéphane ou Alain Vogelweit, qui n'hésitent pas à affirmer clairement leur position politique. Et j'ai été de gauche, mais aujourd'hui, je ne suis plus ni de droite ni de gauche. Ces derniers jours, comme je vais mieux, j'essaie de reprendre le métro, je m'y efforce parce que je ne vais surtout pas avoir des phobies. J'habite dans le 5e arrondissement depuis 1984, mais jeune, j'ai moi aussi passé quelques années à Neuilly. Mes enfants allaient à l'école parallèle à l'avenue du Roule. La première explosion d'HB dans le parking, demandai-je, n'était-ce pas vers la BNP? J'avais un appartement juste au-dessus du garage, qui est devenu un parking, justement. Je me demande si c'est pas celui où HB a mis sa première dynamite. Je pense qu'un des rêves de cet homme était de devenir une vedette, non pas comme un ado, mais comme un de ces jeunes qui passent des castings. Je m'étonne d'apprendre qu'il avait fait des études. Comme Quentin Maussan, l'ex-élève des Beaux-Arts de Lyon, Thomas Lacoste, le réalisateur de Human Bomb, même si j'avoue n'avoir mémorisé aucune image de la prise d'otage, les acteurs pressentis par les autres Berthier ne me semblent pas convenir pour jouer le rôle d'HB. Mais si j'ai suivi les fictions de 2007 et même celles de 1994, où HB apparaissait à la télévision, je n'ai aucun souvenir du visage des comédiens qui incarnent HB. Je me souviens bien, en revanche, de ceux qui jouaient Nicolas Sarkozy, et la maîtresse aussi, mais pas de leur nom. Je les ai trouvés bien. Au bout de quelques minutes, arrivé à la question numéro 10, je propose Vincent Elbaz, parce qu'il m'a l'air moins fin et ouvert que Bernard Giraudot, même si ce dernier était un peu sur le retour en 2007. J'observe, comme Jacques, Yvonne et Françoise, qu'en prenant de l'âge, les souvenirs d'enfance me reviennent par vagues, mais pas au-delà de l'âge de 5 ans. La déclaration de guerre, les alertes des sirènes, les abris, la peur. Maintenant, je comprends peu à peu la guerre. Me sont revenus aussi plus récemment des images de ma grand-mère qui est arrêtée, des coups de crosse, des Allemands qui l'emmènent. La personne qui avait aidé ma mère à me cacher dans un couvent était une dame très chrétienne. Elle avait pris sur elle de m'emmener là. Le jour où on a arrêté ma mère, cette dame est venue me chercher pour que je la voie une dernière fois. « Surtout, tu n'appelles pas ta maman, maman », me dit-elle. « Tu vas l'embrasser, tu fais comme si on allait dire au revoir à la voisine. » Je peux formuler ces souvenirs au téléphone sans aucune gêne, mais je comprends aussi les 11% d'entre nous qui, comme Pierre Lioncamp ou la veuve de Roland, hésitent à les voir repris dans un ouvrage de littérature. Moi, je suis bavard, mais au fond, je ne regrette pas. J'ai essayé d'écrire un livre sur mes souvenirs d'enfant. J'ai rempli des feuilles. Je ne suis pas arrivé à relire. Je ne sais même pas par où commencer. Les 32% d'entre nous qui n'apparaissent pas ici sous leur vrai nom ne confirment pas totalement mon idée que les gens d'aujourd'hui sont craintifs. Ce qualificatif vaudrait à la rigueur pour Raphaël O, l'ex-élève de Lise Bonafou, et 4 ou 5 autres. Aussi, peut-être, pour tel directeur ou directrice d'établissement scolaire, d'école de danse, travaillant avec la maternelle de Neuilly. Mais en général, ces derniers, lorsqu'ils acceptent de parler, vous précisent très vite qu'ils souhaitent l'anonymat. Dès qu'ils entendent les mots « human bomb » ou « Neuilly-sur-Seine ». Irène et Anne ne se posent cette question que quand nous la leur posons, en février 2012. La seconde a complètement oublié nous avoir répondu il y a 1 an et demi, mais pas la première. Elle se souvient des surprises qu'avait provoqué notre questionnaire qui lui a fait l'effet d'un test. Tous deux répondent d'abord qu'elles ne voient pas d'intérêt à ce que leur nom soit cité, parce qu'au fond, ce qu'elles ont répondu n'a pas vraiment d'importance. Et puis, est-ce que ça en vaut la chandelle de risquer d'être dérangé ou même importuné par des hurluberlus qui pourraient les retrouver dans le bottin comme nous l'avons fait? Vous pensez donc que l'impact de notre livre sera tel qu'il pourrait même toucher des lecteurs de ce genre, susciter des réactions si passionnelles? Mieux vaut prévenir que guérir, dit-elle. En compensation, parfois, elle propose elle-même un prénom de substitution, comme Anne ou Irène, sans nous expliquer pourquoi celui-là plutôt qu'un autre. Alain Vogelweit, co-auteur de « La mort hors la loi » d'HB, nous raconte que sa manière d'écrire a complètement changé à partir du moment où il s'est mis à travailler sur Eric Schmidt. Les textes qu'il publiait auparavant dans la revue « Justice » du syndicat de la magistrature circulaient au sein d'un monde restreint de juristes. Il écrivait alors librement, avec le seul souci d'exprimer ce qu'il pensait vrai. « Les lois de la diffamation ne s'appliquent pas de la même façon selon la taille de votre public », explique-t-il. « La liberté d'écrire, quoi qu'on écrive, est limitée par l'ampleur de votre audience. » Ses premiers articles sur la mort d'HB intéressent un journaliste du Monde. Ensuite, cela fait boule de neige. D'autres viennent, nombreux, au siège du syndicat de la magistrature. Peu de temps avant la sortie de son livre, en 1994, son ordinateur est ouvert la nuit en son absence. Puis des procès s'enchaînent. Aujourd'hui, si c'était à refaire, il aurait pris certaines précautions, en particulier dans la manière de formuler les choses. Il n'aurait pas parlé d'un rétablissement de la peine de mort par intervention policière, dont l'exécution d'HB serait un spectaculaire exemple. Il l'aurait tourné de manière à ce que l'idée soit la même, mais qu'on ne puisse pas l'attaquer. Pendant qu'au Salon du Livre de Toulon, nous nous entretenons avec Christian Estrosi, l'actuel maire de Nice, au sujet de la neutralisation policière et de l'usage du taser, Gérard, c'est un autre Berthier d'avant le livre, hein, reçoit la visite d'un homme scandalisé, dont la femme a commencé à laisser des messages sur son téléphone, au début plein de contrition. C'est le vrai monsieur Andreau, donc un personnage du livre de Gérard, c'est le vrai monsieur Andreau venu tout exprès demander des comptes au sujet de l'utilisation de son nom dans le roman Andreau le Mac, que Gérard est venu dédicacer. Vous n'aviez qu'à mettre Berthier le Mac. J'aurais perdu l'allusion à Racine, dont l'argument sert vraiment de matrice au roman, répond Gérard. Écoutez, je suis un ancien professeur, j'ai une activité politique intense dans la région, il faut que votre éditeur fasse réparation. C'est probablement pour éviter de pareilles mésaventures que Jean-Pierre Abou, qui a eu accès à tous les enregistrements des conversations d'HB, a préféré changer dans son livre HB tous les prénoms des enfants et de certains parents. Ce n'est pas le cas de Daniel Boulanger, l'ex-homme du RAID, qui semble bien n'avoir rien caché en ce qui concerne les noms. Dans « Le jour où j'ai tué HB », Diane de M suppose même que c'est en recoupant des informations à partir de ce livre que certains ex-petits otages ont pu être contactés par la production de l'émission Secret Story. Plus de la moitié de ceux qui ne veulent pas apparaître sous leur nom nous laissent l'entière responsabilité de le changer, comme bon nous semble. Le reste pose, avec plus ou moins d'intransigeance, des conditions de demi-mesure. Ceux qui ne portent pas notre patronyme Berthier et ne sont pas non plus des personnes publiques, comme Charles Pasqua, Julien Mazdois ou Gérard Gauthier, apparaissent toujours sous l'étiquette prénom plus initial. 4 d'entre eux ont réclamé la modification de l'initiale tout en conservant le prénom ou le brouillage du prénom par composition aléatoire. Marie ou Anne deviennent Anne-Marie. Diane de M, l'ex-petit otage, nous a demandé deux choses. Premièrement, d'apparaître sous le prénom Diane. Deuxièmement, d'avoir un œil sur ce que nous faisions dire à Diane. La seconde condition, si la première est respectée, pourrait sembler superflue, abusive même. Elle ne l'est pas pour Diane, car Diane n'est pas tout à fait un nom fictif, explique-t-elle. C'est le prénom qu'utilisent toujours ses parents, Laurence et Jean-Marie, lorsqu'ils parlent d'elle dans le docufiction de 2007. C'est aussi le prénom que choisit de lui donner Jean-Pierre Abou, le journaliste de TF1, auteur du livre HB, texte qui sert de base au scénario du dit docufiction de 2007. Pierre, tout comme Jean et Philippe, sait bien que Pierre Berthier n'est pas une étiquette qui vous localise avec précision dans Paris. Mais il veut savoir si, selon nous, le fait d'autoriser la publication de son nom pourra être compris comme son accord avec l'esthétique générale du livre. D'après les extraits qu'il entend, il n'est pas sûr d'apprécier à 100%. Nous avons donc dû, dans ce cas aussi, inventer des prénoms. Certains d'entre nous, comme Aline, Hélène et deux ou trois, demandent d'emblée et ou terminent l'entretien par un « je compte sur vous pour l'anonymat ». D'autres, comme William, hésitent à ce sujet et n'ont plus été joignables par la suite. Leur prénom a donc été, quand nous l'avons jugé utile, modifié. Je fais partie des 57% d'entre nous qui acceptent quasiment sans condition de paraître sous leur identité réelle dans ces pages. Certains, tels Dominique, Timothée, Pierre Lyon-Camp, Philippe, le justifient comme moi en disant qu'ils sont des personnes libres d'exprimer leur opinion et qu'ils ne voient pas en vertu de quoi ils n'assumeraient pas, transposer dans une œuvre de création tant qu'elle n'est pas transformée. À cet égard, David tient à proposer quelques corrections sur les Hmong que nous recommande une vidéo sur YouTube. Caroline et Alain Vogelweit nous font confiance. Ce dernier, cependant, ne tient pas à ce que nous nous fassions dire que Jean-Marie Cavada n'a pas souhaité l'inviter sur le plateau de La Marche du siècle en 1997, parce que Nicolas Sarkozy, qui apportait des images inédites de la prise d'otage, ne voulait pas l'avoir en face de lui. En effet, cela, il n'a aucune preuve. De cela, il n'a aucune preuve. Et nous non plus. Comme demi-mesure, Cavada lui propose une discussion en ligne, en direct. Il rejette cette offre de débat inégale. Quand il voit l'émission avec tous les invités, considérant comme un succès la neutralisation d'HB, il se dit qu'il a bien fait. Marcel nous demande comment ont réagi les gens comme Marc et Pierre Lyon-Camp, dont il apprécie le travail, ou l'image publique. Quand il entend qu'ils ont donné leur accord, il consent lui aussi. Parmi ceux qui interdisent l'utilisation de leur nom, un certain nombre, un peu moins de la moitié, dont Irène, participerait quand même bien à des émissions de télé, dans lesquelles nous pourrions être invités, du moins certains d'entre nous, si jamais le livre réussit. 80% de ceux qui autorisent la mention de leur nom disent oui pour la télé et ou la radio, surtout s'il s'agit d'émissions littéraires ou à débat, éventuellement si c'est Ruquier ou Taddeï. Timothée et Jacques font exception. La J du Botin, s'appelle Janine, nous apprend-elle. Ça, vous pouvez l'écrire, mais je suis une très vieille dame. En mars, j'aurai 89 ans. Ça me gênerait de paraître à l'écran. Une dame, à cet âge, n'est plus de cette époque. Elle n'a pas la même sensibilité. Et puis, même pour vous, physiquement, mon image, ça ne conviendrait pas. Moi, je me méfie moins de vous que de la télé, nous confie Diane de M. On pense souvent le contraire, parce qu'on croit que les médias publics sont plus encadrés, et surtout parce qu'on s'attend à leur manière de reprendre ce qu'on dit, qu'elle soit bonne ou mauvaise. J'ai déjà été sollicité pour témoigner devant les caméras, mais je n'ai jamais voulu venir à aucune émission ni participer à aucun film, parce que je n'ai rien à exprimer de personnel au sujet de la prise d'otage. Il y a 5 ans, mes parents, eux, ont accepté, dans la mesure où ils savaient que ce serait fait dans les règles. Ils sont tous les deux journalistes. Jean-Pierre Abou est un de leurs amis. Ils connaissent aussi Tony Comiti, le producteur du docufiction dans lequel ils prennent la parole. Mais ils ont hésité. Avec Bernard D., ex-responsable de l'atelier maintenance dans la société d'informatique d'HB, France 2 leur semble une institution sérieuse et professionnelle. En revanche, Richard B., ami d'HB, qui, comme Bernard D., n'a pas souhaité être maquillé ni dans ses pages, ni dans celles du livre de Jean-Pierre Abou, a préféré apparaître à l'écran en 93 avec la seule mention « Richard » ou « Richard ami d'HB », se souvient-il. « Mes parents m'appellent Diane », dit Diane de M, ex-petit otage, continue-t-elle, par peur d'entacher ma vie privée. Dans le montage, leurs propos sont introduits de manière à apporter un point de vue personnel aux scènes reconstituées. J'ai trouvé amusant de me voir jouer par une petite fille blonde. Le film dramatise avec un ralenti et un signal sonore le geste qu'a fait mon père et qu'il n'a jamais pu oublier. En dépit de l'interdiction de Charles Pasqua, il entre dans la classe pour parler à HB. Je cours alors vers lui, joué par Pierre Alogia. Mais il lève la main et me demande de ne pas bouger, de rester avec les autres élèves, car il voulait, dit-il, ne tirer aucun avantage de sa position au gouvernement. Je ne suis pas sûr que j'aurais agi comme lui. Cela m'a touché qu'il ait eu à revivre cette situation, quand aujourd'hui, je n'ai, moi, pas même l'impression de l'avoir vécu. Tous ceux d'entre nous qui seraient d'accord pour se déplacer sur un plateau télé ou dans un studio de radio, à de rares exceptions près, comme Dominique ou Marc, ont peur de ne pas réussir à s'exprimer avec aisance ou pertinence devant des animateurs télé. William, lui, par principe, ne parle à aucun journaliste, ne leur faisant aucune confiance. Il affirme être mal à l'aise devant un micro, mais il verra si l'occasion se présente. Sa position peut varier selon les émissions et selon qui pose les questions. Irène avoue qu'elle serait rouge tomate devant De Chavannes ou devant Ruquier. Elle préfère la radio. 75% d'entre nous pensent n'avoir pas grand-chose d'intéressant à dire au sujet de la maternelle de Neuilly-sur-Seine. C'est ce que je réponds moi aussi, au moins dans un premier temps, avec Stéphane, Arnaud et même Quentin Maussan, qui, lui, ne change pas vraiment d'avis, mais nous envoie un texto une heure après seulement pour qu'on ne mentionne pas sa réponse sur le sujet. La plupart d'entre nous, croyons-nous, a sur cette histoire les mêmes idées et les mêmes souvenirs que tout le monde. Aucun Berthier, par exemple, ne se souvenait du vrai nom d'HB.